La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Bonjour, je suis à nouveau avec Alain Blanchard, avec qui nous avons déjà beaucoup parlé la semaine dernière. Et il nous a expliqué que l'univers est en expansion. On va revenir sur ce sujet pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Et aussi que quand on regarde loin dans l'espace, on voit loin dans le passé. Et la lumière qui nous vient de ces objets célestes très éloignés nous arrive avec un décalage vers le rouge. C'est-à-dire que le rayonnement qu'on reçoit est beaucoup plus rouge que prévu. Rouge et au-delà du rouge, infrarouge. Et c'est une raison pour laquelle c'est important d'observer le ciel lointain dans l'infrarouge, comme le fait le télescope James Webb, qui a été envoyé dans l'espace il n'y a pas très longtemps, et dont on attend beaucoup. Alors on va revenir sur cette idée d'expansion de l'univers. Alain, tu peux nous expliquer ce que ça signifie l'expansion de l'univers, comment ça a été découvert peut-être, sans entrer dans les grands détails, mais quand même revenir au début, je crois que ça fait à peu près un siècle maintenant.
Exactement.
Et ce qu'on sait à présent de cette expansion de l'univers, les conséquences.
Bien sûr, avec plaisir. Donc l'expansion de l'univers, c'est d'abord un mouvement. Donc, en 1925, Hubble a fait une des premières découvertes.
Pardon, Edwin Hubble, l'astronome Edwin Hubble, celui qui a donné son nom au télescope Hubble par la suite.
Bah,
il a donné son nom. On a donné au télescope le nom d'Edwin Hubble qui était déjà décédé.
C'est ça.
Voilà.
Donc il a mis en évidence le fait que les nébuleuses spirales qu'on voit dans le ciel sont en réalité des galaxies identiques à la nôtre.
Ça, c'est Je peux dire une chose peut-être, c'est qu'il a fait ça au premier grand télescope de l'ère moderne, qui est le télescope du Mont Wilson, à côté de Los Angeles, et qui a un diamètre, en fait, qui est à peu près le même que celui du télescope Hubble envoyé dans l'espace.
C'est vrai, c'est
voilà.
Vrai.
Mais c'était le premier grand télescope qui permettait, en observant le ciel, de faire cette différence entre nébuleuses et galaxies dont tu es en train de nous parler.
Tout à fait. Analogue, d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien rappeler, à la découverte de Galilée avec ses lunettes sur la Voie lactée. Et donc, ces nébuleuses spirales qui avait été observé par Slipher depuis les années 1910, présente un décalage des fréquences vers le rouge, qui est assez systématique. Et c'était un fait bien connu, et le fait que les galaxies soient des objets extragalactiques a mis dans l'astronomie un problème tout à fait nouveau, dans le sens qu'on s'est rendu compte que ces galaxies ne sont pas immobiles les unes par rapport aux autres, mais bougent les unes par rapport aux autres, avec des vitesses qui étaient très très grandes pour l'époque, plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Et ça, c'était très intriguant pour les astronomes. Hubble a apporté un complément à ces observations, qui est la deuxième grande découverte historique d'Hubble, c'est qu'il a montré que la vitesse d'expansion de ces galaxies, cette vitesse des galaxies était proportionnelle à leur distance. C'est-à-dire plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite de nous, avec une règle de proportionnalité. Un objet qui est deux fois plus loin s'éloigne deux fois plus vite. C'est ce phénomène-là qu'on appelle l'expansion de l'univers.
Pour pouvoir obtenir ce résultat, il fallait faire ces observations, mais il fallait déjà avoir une idée de comment on mesure les distances des galaxies, et il fallait avoir justement connaître cette correspondance entre ce fameux décalage vers le rouge des galaxies et leur vitesse par rapport à nous. C'est pas tout à fait évident, ça. Donc ce décalage, tu en as parlé déjà, c'est la même chose que quand une ambulance nous croise, on entend un changement de la fréquence du son qu'on reçoit. La distance, je ne sais pas si on peut en dire quelques mots, mais c'est important.
Alors tout à fait, hein, la première découverte de Hubble sur la nébuleuse d'Andromède, c'était de calculer sa distance, de savoir estimer sa distance et de montrer qu'elle était extragalactique. Pour ça, il a utilisé ce qu'on appelle des indicateurs de distance en astronomie, une classe d'étoiles particulière, les céphéides, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, on continue d'utiliser aujourd'hui pour mesurer la distance des objets extragalactiques en astronomie. Et il a continué cette observation des céphéides dans d'autres nébuleuses spirales qui étaient depuis devenues des galaxies. Ces nébuleuses spirales, on savait qu'elles avaient des vitesses, les vitesses avaient été déjà mesurées précédemment. Donc il lui a apporté sa pierre en mesurant les distances, et surtout des distances avec beaucoup plus précises que ce qu'on savait faire précédemment.
Donc à partir de là, de ces observations, de ces mesures de la vitesse des galaxies, avec la distance, il a donc trouvé ce qu'on appelle la loi de Hubble, qui est que la vitesse d'éloignement, les galaxies s'éloignent de nous, que la vitesse d'éloignement est proportionnelle à leur distance, ce qui ne veut pas dire du tout que nous sommes un centre, d'accord ?
Tout à fait. Alors, très important, depuis 2018, on appelle ça la loi de Hubble-Lemaître.
C'est vrai, l'abbé Lemaître, c'est très important. L'abbé Lemaître, qui était un chercheur belge de l'université de Leuven, je crois, catholique de Leuven, et qui, donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait une théorie sur...
En fait, il étudiait, avec d'autres, hein, les théories de l'univers issues de la relativité générale. Et c'est le premier qui a explicité l'idée que dans les modèles cosmologiques issus de la relativité générale, il y avait une relation linéaire entre la vitesse et la distance. Et il le montre explicitement à partir
donc,
de...
Donc c'est-à-dire que c'était une idée, théorique de la part de l'abbé Lemaître, et qu'indépendamment, quelque chose qui a été observé par Edwin Hubble.
Tout à fait, hein, en fait, la publication historique de Lemaître, elle date de 1927, la publication de Hubble de 1929. Donc on peut dire que la formulation théorique est arrivée avant les observations, mais en même temps, c'est deux choses qui sont totalement indépendantes, parce que la communication à l'époque n'avait pas l'efficacité qu'elle a aujourd'hui.
Ça va être bientôt le centenaire, j'espère qu'il va
tout
y avoir
fait.
Une fête,
des
événements
oui, tout à fait. Non,
pour la
ans,
découverte
ouais.
de cette expansion de l'univers. Donc l'idée c'est, on voit que toutes les galaxies s'éloignent de nous, mais nous ne sommes pas un centre, ça veut dire que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres.
Tout à fait.
Sauf que j'aime toujours bien dire, moi, que en fait, nous sommes le centre de quelque chose, il ne faut pas oublier, nous sommes le centre de ce que nous observons.
Exactement.
Ça a l'air d'être une vérité de la palisse, mais nous sommes le centre de ce que nous observons, mais s'il y avait une personne, imaginons, sur une autre planète, dans une autre galaxie, il serait aussi le centre de ce qu'il observe, mais ce ne serait pas la même chose. C'est pas évident pour les gens.
Oui,
ça, c'est une notion
oui,
de relativité,
tout à fait,
ça.
Tout à fait.
Oui.
C'est déjà la relativité galiléenne. En fait, quand vous êtes dans un train sur une gare et qu'il y a un autre train sur le quai d'à côté et que vous regardez le train qui est sur le quai d'à côté, d'un seul coup, il y en a un des deux qui bouge. Et c'est parfois difficile de savoir si c'est vous qui bougez ou si c'est le train d'à côté qui bouge. Et on a toujours cette impression que nous, on est immobile et que c'est le reste qui bouge. Et puis, si on regarde le quai dans le cas du train, on voit qui bouge des deux.
Oui.
Pour les galaxies, il n'y a pas de référence. Chacun se considère comme immobile et voit les autres en déplacement.
Donc, en fait, la découverte, c'est qu'on dit d'une manière schématique toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. En réalité, ce n'est pas vrai. On sait que la galaxie d'Andromède se rapproche de nous. Donc il y a des gens qui, en entendant ça, disent « Mais alors, vous dites n'importe quoi, vous dites que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, et là, il y en a une qui se rapproche de nous. » Alors il faut expliquer que ce n'est pas du tout contradictoire.
C'est vrai.
Ça se place à deux niveaux différents.
C'est une petite complication anecdotique pour les cosmologistes, mais qu'il faut bien préciser. Quand les galaxies sont très proches, elles vont interagir sous l'effet de la gravitation. Et ce qui est le cas entre notre galaxie et Andromède. Andromède est tellement près qu'en fait, c'est un couple de sœurs, elles sont en orbite l'une autour de l'autre. Et du coup, effectivement, leur trajectoire est détachée de celle de l'expansion. Mais si on regarde le mouvement de ces deux galaxies par rapport à un objet très lointain, on verra qu'effectivement, la distance avec cet objet très lointain augmente au cours du temps, selon la loi de Hubble. Mais c'est vrai qu'à petite distance, cette loi n'est pas vérifiée.
Donc on voit comment tout ça a commencé à être compris il y a un siècle. Ça a beaucoup évolué depuis. En fait, on sait que ce n'est pas vraiment les galaxies qui ont une vitesse par rapport à nous, que c'est un petit peu plus compliqué, c'est l'espace qui est en expansion. Et je pense que c'est quelque chose dont on va peut-être revenir dessus la semaine prochaine, parce que c'est un sujet important. On tout sait aussi l'expansion, on peut peut-être en dire un mot tout de suite, on a encore un petit peu de temps. L'expansion de l'univers, on pensait qu'au cours du temps, ça devait être décéléré, qu'elle devait se ralentir, alors qu'en fait, il semble bien que c'est le contraire. Il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes maintenant. Les choses ne sont pas du tout résolues. Quand on résout des questions, il s'en pose d'autres. Et il y a d'autres observations qui aussi apportent des difficultés. Donc, on va juste en dire quelques-unes et on en reparlera la semaine prochaine.
Très volontiers. Donc, effectivement, on va faire un saut dans la recherche la plus moderne, hein, parce qu'on s'est rendu compte que cette expansion, alors qu'on s'attendait qu'elle ralentisse au cours du temps, on dira pourquoi peut-être la semaine prochaine, elle est en fait accélérée. C'est-à-dire la vitesse d'expansion entre deux objets dans l'univers augmente au cours du temps, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle ralentisse. Et cette accélération de l'expansion, c'est sans doute le problème le plus intriguant de la physique moderne actuellement.
C'est en fait le sujet de ton école d'été, là, enfin, parce que ça va nous conduire à l'énergie noire.
Exactement.
Et donc c'est ce sujet.
Exactement, l'école d'été qu'on organise, elle est centrée sur ces problèmes d'énergie noire parce que c'est le problème le moins bien compris actuellement dans le domaine de la cosmologie.
En fait, je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de discuter, c'est de montrer pas à pas ce qu'est la démarche scientifique et de montrer aussi que cette idée que l'univers n'a pas toujours existé, qu'il a eu un début, ce qui n'a pas été facile à accepter, même parmi des collègues, que c'est quelque chose qui résulte de la logique, de l'observation, du calcul, et c'est pas une croyance, parce que souvent les gens nous disent « croyez-vous au Big Bang ?». Donc je crois que c'est important cette démarche, ça prend du temps, ça va prendre plusieurs émissions, mais je crois que c'est important cette démarche petit à petit pour montrer aux gens ce qu'est notre démarche, qui n'est pas forcément facile et qui est rigoureuse, mais qui ne donne pas des solutions définitives tout de suite. Il y a beaucoup de travail à faire et beaucoup d'autres questions qui se posent.
C'est vrai.
On en reparlera la semaine prochaine.
Il y a des aspects très techniques, mais en même temps, je pense qu'il y a des aspects assez faciles à comprendre si on n'a pas la volonté de rentrer dans le domaine de la technique.
Je crois effectivement qu'on n'a pas besoin de comprendre la technique pour comprendre la démarche scientifique. Donc, on est d'accord, on se revoit la semaine prochaine.
C'est parfait.
Bon, à la semaine prochaine alors.